Lucci, de New York à Téhéran, le festival invite éclaireurs et artistes confirmés de la scène artistique internationale. Retrouvez le festival Exit dans Alternative samedi 20 mars à 22h15 et sur franceinter.com.
France Inter,
la différence.
15h04, restez avec nous, c'est l'heure de là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet.
Arrêtez, pitié, ça suffit. Je parle de ces tunnels de messages débiles et répétitifs toutes les heures sur France Inter. MAF, Matmut, Cerise, etc., etc. C'est désespérant. Je sais qu'il y a déjà eu des protestations, des pétitions. Je sais que toi, Daniel, tu as déjà fait des émissions contre cet abrutissement de la pub. Tout le monde sait que cela abîme et salit l'antenne du service public. Que les auditeurs intelligents en ont marre d'être considérés comme du temps de cerveau disponible. Mais rien n'y fait. Ça continue et de plus en plus, de pire en pire. Le paradoxe en plus, c'est que c'est presque toutes des pubs pour des assurances ou autres organismes de placement financier. J'ai pas d'argent à placer, je me sens pas concerné. Et le résultat, c'est que France Inter devient une radio où on explique souvent, à juste titre, les méfaits des marchés financiers, mais qui se prostituent toutes les heures à ces mêmes marchés. Il y en a marre, bas les pattes, c'est notre radio, notre service public. Monsieur Val, résistez, dites non à ces pollutions sur votre antenne. Merci.
Oui, bonjour. Hervé à Brest. L'Europe menace la France de sanctions au sujet de ses frais bancaires. Immédiatement, Madame Lagarde nomme une commission. Et qui est président de cette commission? Eh bien, mon Dieu, un ancien président du Crédit Agricole. Cherchez l'erreur. Bonne journée.
Bonjour à tous, je viens d'écouter l'émission sur Jean Ferrat. Alors j'ai 30 ans, j'ai pas connu la 4L, j'ai pas connu les vacances au camping de la Pinède. Et je ne connaissais pas Jean Ferrat, mais grâce à vous, je viens de le découvrir. Je comprends mon grand-père qui a fait les guerres coloniales, justement, et qui, à l'âge de 80 ans, en pleure encore. Et je comprends aussi tous ces gens qui pleurent la mort de Jean Ferrat. Voilà. Je vous remercie, et continuez comme ça, ça nous fait du bien. Au revoir.
Bonjour, voilà, moi je voulais juste dire, j'ai laissé passer un petit peu le temps des larmes, etc. Je voulais juste parler très vite d'un homme qui a écrit au début des années 60, donc il y a presque 50 ans maintenant, il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones, voilà. Ça c'est Jean Ferrat, il y a 50 ans qu'il a écrit ça, et aujourd'hui on est déjà au 21e siècle, et des grenelles de l'environnement qui marchent pas, des gens qui sont incapables de gérer la planète, enfin voilà. Donc rien que pour ça, respect à Jean Ferrat. Moi j'ai 40 ans, donc c'est pas trop de ma génération, mais j'ai toujours aimé ses chansons les plus connues, voilà. Et puis j'aimais bien le bonhomme surtout. J'ai entendu un témoignage l'autre jour sur votre antenne d'une femme qui disait, voilà, ça c'est des gens qui sont beaux. Et c'est vrai que tu regardes Jean Ferrat jusqu'à la fin de sa vie, 79 ans, bah, c'est un beau mec, quoi, c'est un grand avec sa moustache, ses cheveux au vent. Et des fois, ça fait envie et ça fait du bien de voir des gens comme ça qui vivent à peu près de nous. Donc, quand ils s'en vont, ben, on est forcément un peu triste. Et sans doute, ce genre de personnes insoumises et inféodées aux médias et à quoi que ce soit, eh bien, ça fait toujours un peu de peine quand ils s'en vont. Merci. Au revoir.
Auditeur attentif du Puy-de-Dôme de l'Auvergne et de ses environs, le repère de là-bas si j'y suis saison 2 aura lieu aujourd'hui 18 mars à 18h01 au Baroque Café 5 boulevard Trudaine Clermont-Ferrand en face de l'école de commerce. En ces temps d'élection au suffrage universel, il sera question du pouvoir que certains tentent toujours et encore d'exercer sur les autres. À ce soir.
J'ai vu l'émission Zone Extrême sur France 2. Et j'ai été vraiment choqué de la façon dont les cobayes ont été manipulés. Et surtout, il était évident que l'image d'eux-mêmes avait été profondément détruite par cette émission. On peut trouver assez facilement sur Internet un article du sociologue qui a mené à bien cette expérience et qui explique sans aucun problème comment il a franchi toutes les barrières éthiques qui sont censées être mises en place quand on fait des expériences. Je suis étonné qu'aucun journaliste ait relevé ça, que vraiment cette expérience ait été faite sans aucune éthique en fait. Je trouve que c'est quand même un point à soulever, on manipule pas des gens comme ça pour vouloir prouver quelque chose qui avait déjà été prouvé par le passé et puis qui ne prouve rien de spécifique par rapport à la télé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bonne journée.
Discussion dans le répondeur de là-bas si j'y suis sur l'émission d'hier soir sur le comportement, sur la soumission à l'autorité, ça nous a donné envie aujourd'hui de revenir sur l'autodéfense intellectuelle, ce que Normand Baillargeon, notre ami chercheur du québécois, appelle l'autodéfense intellectuelle. C'est une idée de Noam Chomsky qui dit la première chose qu'il faut faire face à toutes ces pressions, manipulations, tendances à obéir, à nous soumettre, etc. La première chose qu'il faut faire, c'est prendre soin de votre cerveau, dit Chomsky. Et la deuxième est de vous extraire de tout ce système d'endoctrinement. Il vient alors un moment où ça devient un réflexe de lire la première page du Los Angeles Times, elle me dit, vous savez qu'à vous dire Le Monde ou Libé, en y recensant les mensonges et les distorsions, un réflexe de replacer tout ça dans une sorte de cadre rationnel. Pour y arriver, vous devez encore reconnaître que l'État, les corporations, les médias et ainsi de suite vous considèrent comme un ennemi. Vous devez donc apprendre à vous défendre. Si nous avions un vrai système d'éducation, on y donnerait des cours d'autodéfense intellectuelle. Voilà. Alors, vous allez me dire que c'est pas tout à fait, etc. Les préoccupations qui étaient celles des animateurs de l'émission d'hier soir. Mais enfin, là, on ouvre plus largement l'idée de développer le sens de l'autonomie, de la réflexion et de cette autodéfense intellectuelle à laquelle assez peu de choses nous préparent. L'éducation ne nous incline pas, ne nous pousse pas à cette autodéfense intellectuelle, à prendre l'habitude de penser par soi-même en toutes circonstances, etc. C'est quand même plutôt l'inverse qui se produit majoritairement et pas seulement dans l'éducation, mais aussi bien dans l'éducation, dans les relations avec nos enfants, etc. Donc là, c'est cette idée que Normand Baillargeon a développée dans ce bouquin qui a eu un grand succès, pas seulement en France et ni au Québec, mais dans le monde. Il y a eu beaucoup de traductions de ce petit cours d'autodéfense intellectuelle qui a été publié avec d'excellents dessins de Charbes. Voilà, auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, je viens de lire dans Le Monde de mercredi 17 mars que le plus grand centre de rétention de France ouvre ses portes près de l'aéroport de Roissy. Alors l'ouverture de ce nouveau centre, qualifié de camp d'internement pour étrangers par la CIMAD, donc va pouvoir accueillir, entre guillemets, 240 personnes. La CIMAD, qui a pu le visiter, évoque un espace sécuritaire et totalement déshumanisé. À l'intérieur, de multiples caméras de vidéosurveillance et détecteurs de mouvements permettront aux policiers, depuis une tour de contrôle, de contrôler en permanence ce que font les personnes retenues. Le haut des portes des chambres est vitré, interdisant toute intimité. L'association note par ailleurs que l'accès aux lieux d'aide, tels que l'infirmerie et aux pièces de visite, n'est pas libre, comme c'est le cas dans d'autres CRA. Il ne pourra se faire qu'après le franchissement de plusieurs grilles et portes à fermeture magnétique que les policiers actionneront à distance par un système d'interphone. L'association se dit d'autant plus inquiète que 40 places sont réservées à des familles, ce qui induit l'accueil d'enfants. Voilà, donc moi je pensais simplement aux enfants qui allaient se retrouver enfermés dans de telles conditions. J'ai vraiment honte. C'était Evelyne de Picardie.
C'est la tenue d'un café repère à La Rochelle le vendredi 19 mars à partir de 19h au restaurant La Petite Marche, rue des Trois Fuseaux. Merci.
Bonjour tous les AMG, c'est le repère du 20e qui vous invite samedi pour parler du repère, ce qu'on souhaite y trouver et donc ce qu'on peut et souhaite y apporter. Venez avec vos idées et vos oreilles, c'est samedi 20 à 17h au lieu dit, 6 rue Sorbier, dans le 20e arrondissement. Bis à tous.
L'expression autodéfense intellectuelle, c'est une expression de Chomsky, comme je l'explique dans le livre. Chomsky dit quelque part que si nous avions un vrai système d'éducation, on y donnerait des cours d'autodéfense intellectuelle. Parce que le langage est un outil magnifique et permet de s'exprimer de manière claire, de transmettre des idées et d'échanger. Mais c'est important de voir aussi que cette réalité-là a son inverse, qui est de savoir qu'on peut tromper avec le langage, qu'on peut présenter des visions déformées du réel, des visions partielles du réel. On peut commettre des erreurs de raisonnement assez facilement. Personne n'est à l'abri de ça. Donc, le petit cours d'autodéfense intellectuelle s'ouvre sur un chapitre où j'essaie de donner à mes lecteurs des outils d'autodéfense intellectuelle liés au langage. Ça, c'est le premier chapitre. Chomsky dit, si on avait un vrai système d'éducation, on y donnerait des cours d'autodéfense intellectuelle? Fort bien. Mais qu'est-ce qu'il faut mettre là-dedans? Que comprendrait un tel cours? Et je me suis amusé à essayer d'en écrire un, tu vois, c'est-à-dire de développer les outils qui me semblaient indispensables pour assurer son autodéfense intellectuelle.
Salut, c'est Daniel Mermel. Ben, si j'y suis avec Guy Vanctil et Normand Baillargeon. Petit cours d'autodéfense intellectuelle.
Flight number 2, arriving from...
Avant qu'on continue, il faut quand même bien préciser une chose, c'est que il y a une chose qui te sert beaucoup pour ce livre, c'est qu'il est illustré par Charb.
Et oui, je...
Et ça, c'est quelque chose... Là, il est très en forme.
Il a accepté très gentiment. Il est reparti avec le manuscrit, puis... le livre était prêt ou à peu près, puis je me suis dit, ça serait quand même amusant d'avoir des dessins de Charb. Il m'en a fait une quinzaine, tu vois, ils sont vraiment géniaux.
Formidable.
Ce qui est fantastique avec les dessins en général, mais ceux de Charb en particulier, c'est qu'il réussit à passer énormément d'informations avec quelques coups de crayon. Parfois, un dessin de Charb en dit plus qu'une page de texte ou deux. Alors, c'est vraiment magnifique, ça doit être capable. Parce que c'est un homme qui a énormément d'esprit, que j'estime.
Il y a une chose à laquelle tu te réfères pour qu'on comprenne un peu dans quel sens ça va. Il y a plusieurs directions dans lesquelles tu vas, hein. Mais tu te réfères au fameux test sur l'autorité de Milgram, la soumission à l'autorité de Milgram.
Eh bien, messieurs, d'abord quelques mots sur l'expérience que nous allons tenter aujourd'hui.
Est-ce que tu peux rappeler en quelques mots ce que c'était?
Oui, bien sûr. Stanley Milgram, c'est un psychologue social, et ce qu'il a fait, plus personne ne pourrait le faire aujourd'hui, parce que les comités d'éthique des universités interdiraient ce genre d'expérience-là. Mais Stanley Milgram, qui était préoccupé par la question de savoir comment il est possible que des gens dans les camps de concentration aient fait les choses qu'ils ont fait. Et il s'intéressait à la question de l'autorité, et plus spécifiquement de la soumission à l'autorité. Alors, l'expérience de Milgram, c'est une expérience extrêmement célèbre en psychologie sociale. C'est une des deux ou trois expériences les plus célèbres. Ou, en gros, je donnerai pas les chiffres, parce que je voudrais pas me tromper dans les données, mais pour donner une idée aux gens de ce qu'il a fait, c'est que il a mis des annonces dans l'université où il enseignait, disant aux gens, venez participer à une expérience de psychologie sociale portant sur un sujet qu'il annonçait à peu près pas. Les gens se présentaient. Ils étaient deux qui arrivaient pour se présenter à l'expérience. Et on leur disait, vous allez participer à une expérience sur les effets des punitions sur la mémorisation.
Une théorie établie par des psychologues soutient que l'individu apprend correctement et d'une manière plus efficace lorsqu'il sait que chaque erreur de sa part lui attirera une punition.
L'un d'entre vous, et là on expliquait bien ça, va être assis dans la pièce ici, et on va brancher sur lui des électrodes, et il va recevoir des chocs électriques. S'il ne réussit pas à répéter correctement des séries de mots que la deuxième personne va lui indiquer, et c'est la deuxième personne qui va donner les chocs électriques. On faisait asseoir une des personnes, on lui montrait les chocs, ce qu'il y en était, on faisait asseoir la deuxième personne, la même chose. Ensuite, on prétendait tirer au hasard qui allait devenir celui qui allait poser les questions et faire mémoriser les mots, et celui qui serait assis dans la chaise et qui devait répéter ses listes de mots.
Premier mot, bleu.
Ciel.
Ciel bleu.
Juste.
Mot suivant, féroce.
Rire féroce.
Non, c'est faux. La réponse était animal. 15 volts.
Ceci était arrangé à l'avance. La deuxième personne était de mèche avec Stanley Milgram. Le tirage au sort était bidon et c'était l'autre personne qui était venue, qui n'était pas de mèche donc avec Stanley Milgram, qui allait être celle qui allait donner les chocs. Et la deuxième personne de mèche avec Milgram était un comédien payé pour ça, qui allait s'asseoir dans la chaise. Évidemment, il recevait pas vraiment des chocs électriques. Il faisait semblant de recevoir des chocs électriques.
C'est intolérable. Même au nom de la science, vous n'avez pas le droit de faire ça. Aucune loi ne vous autorise.
Gardez votre calme, monsieur le procureur. Ces appareils sont entièrement factices.
Et la personne qui administrait les chocs avait devant elle un cadran qui indiquait l'intensité des chocs et qui indiquait ce qui pouvait se passer lorsqu'on donnait des chocs de ce douleur extrême, douleur extrêmement grande, jusqu'à danger de mort, voyez-vous. Et il commençait à demander à la personne de répéter les mots qu'il lui indiquait. Lorsque la personne se trompait, il donnait des chocs. Il devait progressivement augmenter. Et ce que Stanley Milgram a découvert, c'est que, en raison de la présence d'une personne de l'université dans une blouse blanche qui avait un script à répéter, qui répétait seulement un certain nombre de phrases, du genre...
Je vous prie de continuer, Monsieur Despaul.
Vous pouvez continuer, vous devez continuer. L'expérience demande que vous continuez.
Il est absolument essentiel que nous poursuivions l'expérience, Monsieur Despaul.
L'université vous couvrira, des phrases de ce genre-là.
Considérez son silence comme une erreur et envoyez-lui 180 volts.
Il va pas bien du tout, ça risque de mal tourner.
Je prends sur moi toute la responsabilité.
Si vous prenez la responsabilité...
Un nombre absolument considérable de gens allaient jusqu'à administrer des chocs qui auraient causé la mort de la personne qui était dans elle.
En moyenne, 63% des sujets sont obéissants. C'est-à-dire qu'ils acceptent totalement le principe de l'expérience. Et vont jusqu'à 450 volts.
Ce qui signifie que dans un pays civilisé, démocratique et libéral, les deux tiers de la population sont capables d'exécuter n'importe quel ordre émanant d'une autorité supérieure.
Alors, c'est une expérience classique de psychologie sociale sur la soumission à l'autorité et qui nous met en garde, je pense, contre le fait qu'on est susceptible, simplement parce qu'on est réceptif à l'autorité, de commettre des choses qu'on ne commettrait pas si on était plus critique envers l'autorité.
Je vais être obligé de vous envoyer 405 volts. Alors, faites un effort.
Mais... dans le cas d'un génocide, par exemple, quand un tyran décide de tuer froidement 5-6 millions d'hommes, de femmes, d'enfants, il lui faut au moins 1 million de complices, de tueurs, d'exécuteurs. Comment arrive-t-il à se faire obéir?
En morcelant les responsabilités. Un tyran a besoin avant tout d'un état tyran. Alors il va recruter 1 million de petits tyrans fonctionnaires qui auront chacun une tâche banale à exécuter. Et chacun va exécuter cette tâche. Avec compétence et sans remords. Car personne ne se rendra compte qu'il est le millionième maillon de l'acte final. Les uns vont arrêter les victimes. Ils n'auront commis que de simples arrestations. D'autres vont conduire ces victimes dans des camps. Ils n'auront fait que leur métier de mécanicien de locomotive. Et l'administrateur du camp, en ouvrant ses portes, n'aura fait que son devoir de directeur de prison. Bien entendu, on utilise les individus les plus cruels dans la violence finale. Mais à tous les maillons de la chaîne, on a rendu l'obéissance confortable.
Je parle avec mes amis qu'un jour on va changer le monde, mais au fond nous-mêmes, on est tous des chokeux. Y'a personne qui ose le dire d'avance. On préfère parler autour d'un verre de vin, d'une bière, que d'aller à l'autre bout du monde, puis de donner vraiment de soi. On a des solutions sur le bout de la langue, on a des idées intellectuels, des concepts qu'on a déjà lus quelque part et une opinion plus précieuse qu'un diamant de conflit. On est fort dans nos appartements retranchés. Qui oserait vraiment quitter ce monde confortable, franchir la barrière pour aller sur le terrain et puis aider les gens avec nos mains? C'est facile de juger, de régler les problèmes quand ce ne sont que des mots qu'on lance dans les airs et qui rebondissent sur les murs. On a de l'avenir devant soi et un cocon chez soi. On aime croire qu'on deviendra pas crouton, qu'on fera pas comme la génération avant nous. Non, 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 nous on est plus wise qu'on se dit. On va recycler nos idées pendant des années, devenir con jusqu'à la répétition et mourir sans rien comprendre. Gaspiller notre salive et enculer des mouches, la belle masturbation pour le cerveau. On sait comment fonctionne la vie, ses subtilités, mais ce qu'on n'est pas encore marié et qu'on n'a pas encore d'enfant. On est jeune et fringant avec nos cheveux dans le vent. On a juste des petites responsabilités à court terme, pas grand-chose dans le garde-manger. On aime penser qu'on est pauvre avec nos 3 ordis, parce qu'il y aura toujours plus riche que soi pour se comparer. On croit en un monde meilleur avant la fermeture, où l'espérance de vie devrait être partout la même. Mais l'on sait très bien qu'on peut continuer de vivre même mort. Je vois tant de gens qui se rangent sur le côté docile, et pourtant ils étaient si marginaux la semaine passée. Ils croyaient croire, et moi non plus je n'y crois pas.
Hey,
tiens, la grande, ici, v'là deux pièces, là. Va nous acheter deux capotes dans la distributrice, qu'on le fasse des deux bords.
Ah. Ça, ça a pas passé,
non.
Ça.
C'est pas le...
T'es tombé sur une mauvaise. C'est vraiment pas toi.
C'est pas moi, hein.
C'est bon, t'es tellement...
Et voilà, on est tombé sur les bigards québécois. Et on arrive à Québec, on a rendez-vous avec Normand Baillargeon dans un café-bar très sympathique qui s'appelle L'Agité, qui est un bar associatif qui est aux rues Dorchester à Québec. Et là, il y a, voilà, on va prendre un pot là et discuter avec l'auteur donc du petit cours d'autodéfense intellectuelle. Je vous signale l'éditeur, c'est Luxe, l'éditeur, mais on le trouve très couramment. Hein, c'est un éditeur québécois, mais on trouve le bouquin un peu partout maintenant en France, donc avec Normand Baillargeon. Mais sur cette histoire, hein, se défendre, de comment se défendre de nos propres perceptions aussi très souvent, il y a cette petite histoire. Quatre hommes visitent l'Australie pour la première fois. En voyageant par train, ils aperçoivent le profil d'un mouton noir qui broute. Et le premier homme en conclut que les moutons australiens sont noirs. Le second prétend que tout ce que l'on peut conclure est que certains moutons australiens sont noirs. Le troisième objecte que la seule conclusion possible est que en Australie, au moins un mouton est noir. Et le quatrième homme, un sceptique, conclut il existe en Australie au moins un mouton dont au moins un des côtés et noir. Voilà, différentes sortes de perceptions. C'est drôle, non ? C'est un Raymond Chevalier qui a écrit ça dans un bouquin qui s'appelle « Québec sceptique ». Et c'est drôle parce que c'est les perceptions que nous avons. Vous vous situez, vous vous reconnaissez peut-être dans l'une de ces perceptions. Et c'est ce qu'on a évidemment quotidiennement quand on fait une émission comme celle-là. Dans les messages que vous nous renvoyez, on voit qu'il y a différentes façons de percevoir ce que nous disons. C'est très banal ce que je dis. N'empêche que entre le message émis et la perception, il y a des manipulations possibles, intentionnelles ou pas d'ailleurs, qu'il s'agit de tenter au moins de contrôler et d'en avoir au moins la conscience, ce à quoi s'efforce Normand Baillargeon que nous retrouvons au café L'Agité. Alors, dis-nous quelques exemples de ces manipulations et comment on peut y résister.
Grosse question, monsieur Maire, mais vous en posez toute une, là. Écoutez, par exemple, il y a un chapitre sur les mathématiques dans le livre, OK? Et je sais que beaucoup de gens, je ne sais pas si vous avez ça en France, chez nous, on appelle ça des mathophobes, ceux qui ont la phobie des mathématiques. Alors, il y a des gens, dès qu'ils voient des chiffres, ils partent à courir. Dès qu'ils voient des équations, ils s'enfuient. Ça, je pense que c'est une grave erreur. Et parmi les façons de résister à la propagande, parmi les façons de résister à la désinformation, il y a de faire un tout petit peu de mathématiques. Ça, c'est un exemple simple. Dans le livre, j'explique un peu une notion de probabilité puis de statistique. C'est sûr que c'est indispensable à connaître pour tout citoyen. Les profs de maths en France devraient monter un cours de mathématiques citoyennes. C'est quelque chose d'extrêmement important. Mais juste l'arithmétique élémentaire, celle que vous et moi connaissons, ça peut être utile. Par exemple, si on vous indique des données chiffrées, prenez donc le temps de compter pour vous demander si c'est possible. Alors, un exemple que j'aime à donner, c'est que dans un colloque universitaire, un professeur d'université indiquait que 2000 enfants à l'heure mouraient en Irak du fait des sanctions des États-Unis à cette époque-là. Quand on a un chiffre comme ça qui est donné, c'est facile de compter. Tout le monde est capable de multiplier 2000 par 24, par une année, 365 jours dans une année, et se rendre compte qu'on arrive à ce moment-là, les sanctions contre l'Irak étaient abominables, le nombre de morts que ça a causé est indéniable. Chez les enfants, tout le monde l'a confirmé quand on l'a pu voir. Mais là, t'arrives à un nombre qui est tellement élevé que c'est plus grand que la population totale de l'Irak, que le nombre d'enfants qui mouraient à chaque année ou à chaque deux ans est tellement gigantesque que c'est incroyable. Et pour découvrir ce genre d'erreur-là ou de faute-là, il suffit de compter lorsqu'on nous donne un chiffre. C'est moi donner un deuxième exemple. Une des choses que je trouve les plus utiles et qui est extrêmement facile à utiliser, c'est ce que j'appelle la donnée détachée ou semi-détachée. Ça veut dire qu'on nous donne un nombre et ce nombre-là se rattache à rien. On peut pas voir à quoi ça se rattache. 80% des gens préfèrent tel type de chocolat. Quel 80%? Ça s'applique à quoi, 80%? Est-ce que c'est 8 personnes sur 10, 80 sur 100, 800 sur 1000? Voyez-vous, si on a souvent comme ça données chiffrées qui nous sont lancées et qui sont des données détachées parce qu'ils ne se rattachent à rien ou semi-détachées. Alors, portez une attention à ça. Ce n'est pas très difficile, vous voyez. Il suffit d'allumer ce que j'ai appelé dans le livre son détecteur de poutine. Tu vois, tu mets en marche...
Détecteur de poutine.
Oui, c'est ça. En québécois, on dirait de la poutine, tu vois. Des stupidités, des niaiseries, des choses impossibles à avaler, tu vois. Et il faut allumer son détecteur de poutine. Alors, encore une fois, devant des données chiffrées, se demander... À quoi réfère exactement cette donnée chiffrée qu'on est en train de nous balancer? Refaire le calcul soi-même, souvent des choses aussi simples que ça sont suffisantes pour susciter le doute devant ce qu'on nous a présenté comme données chiffrées. Une autre chose, évidemment, toutes simples aussi. Il y a des choses plus complexes dans le livre, mais je vais en donner des toutes simples pour être compris immédiatement. Se demander qui a compté. Alors, ça a l'air de rien, ça, mais d'où vient le chiffre? Comment on l'a compté? Si une donnée chiffrée est présentée, c'est parce que quelqu'un a compté. Alors, qui a compté? Comment s'y est-il pris pour compter? Et à quel résultat est-il arrivé? Ce sont des questions pertinentes à poser sur des données chiffrées.
Indice opinion.
Plus 6%.
0,5%.
Plus 0,5%.
0,5%.
13,5%.
51% des intentions de vote, selon un sondage CSA France Info.
Par 50,5 contre 49,5.
C'est une progression de 5 points par rapport à la précédente enquête.
Des sondages qui font couler beaucoup d'encre. 52% des voix contre 48.
Par 50,5 contre 49,5.
48% d'hommes, 53% de femmes, contre 52% de femmes.
Voilà, on continue avec Normand Baillargeon et son petit cours d'autodéfense intellectuelle. On est à Québec, dans le café L'Agité.
Tu as évoqué rapidement la rhétorique. Il y a tous les systèmes des syllogismes, des paralogismes aussi, qui permettent d'embrouiller.
Oui, c'est ça. Dans la première partie du petit cours d'autodéfense intellectuelle, je consacre un chapitre au langage et une partie de ce chapitre-là porte d'abord sur les mots. Alors, les mots eux-mêmes, c'est intéressant de s'y arrêter. Et la deuxième partie, vous avez raison, porte cette fois-là sur les raisonnements, sur les sophismes et les paralogismes. Hein. C'est, il y a des raisonnements qui sont valides, puis il y a des raisonnements qui sont invalides. Alors, c'est intéressant de savoir ça. Puis je pense que tout citoyen, tout penseur critique, toute personne qui veut assurer son autodéfense intellectuelle devrait connaître un certain nombre de ces stratégies-là, tu vois. Le langage permet de dénoter des objets, mais il permet aussi de connoter des objets. Alors, on peut, par un mot, renvoyer à, par exemple, un objet dans le monde, mais on peut aussi, en utilisant tel ou tel mot, on peut aussi colorer cette référence-là. On peut aussi, par le langage, donner une dimension majorante à quelque chose, ou une dimension minorante à quelque chose, ou une dimension plus neutre à quelque chose. Et c'est important de faire attention au choix des mots qu'on utilise pour nous parler, voyez-vous. Dire, parce que, évidemment, le langage politique est particulièrement propice à ces choses-là. Hein. Si on nous dit, remarquez le langage qu'on emploie pour nous parler des guerres, des frappes chirurgicales, c'est quelque chose d'assez extraordinaire quand on y pense 10 secondes, dans le, voyez, l'expression frappe chirurgicale. Alors, quand on emploie l'expression perte collatérale, par exemple, des pertes collatérales, c'est la mort de civils innocents. Des frappes chirurgicales, est-ce que ça a du sens d'employer une expression comme celle-là pour désigner les bombardements intensifs qui sont faits? Pas toujours. Jamais, en fait. Et donc, il est important de faire attention au choix des mots qu'on utilise pour nous parler de la réalité. Je pense que quelqu'un qui veut assurer son autodéfense intellectuelle devrait être en mesure.
Alors là, les mots dont tu parles, ils sont créés intentionnellement, ceux-là.
Ceux-là, ils sont tout à fait créés
intentionnellement. Comment ils se fabriquent? Est-ce qu'il y a quelque part un atelier, des bureaux où on fabrique ce langage-là?
Il y a effectivement dans nos sociétés des endroits où on fabrique ces langages-là. J'en donne des exemples dans le petit cours d'autodéfense intellectuelle. Lorsque, les années 90, fin des années 90, les organismes génétiquement modifiés passaient mal auprès du grand public, tu vois, des firmes de relations publiques ont été engagées pour essayer de passer le message, pour essayer de faire en sorte que le message passera mieux. Et ce qu'ils ont fait, c'est un travail sur le langage. C'est-à-dire, ils ont vraiment délimité un champ sémantique de mots à connotation positive qu'il était utile d'employer. Si je donne des exemples, nature, naturel, etc. Et des mots qu'il était interdit d'employer pour discuter de la réalité des OGM, tu comprends? Parce que ces mots-là avaient des connotations négatives chez les gens. Alors ça, pour le savoir, ils ont fait des enquêtes auprès des gens. Ils leur ont décrit les organismes génétiquement modifiés en utilisant un certain type de vocabulaire, puis un autre, et ils ont regardé les réactions des gens. Ils ont été en mesure de déterminer quel type de langage Monsanto, par exemple, devait employer dans ses publicités, dans ses communications avec les gens, pour susciter une adhésion plus positive ou une vision plus positive de leur objet. Donc, vous avez raison, il existe aussi des gens dont le métier consiste à choisir ces mots qui permettent de communiquer avec l'opinion publique. D'où l'importance de faire attention aux mots.
Je voudrais m'adresser à vous qui me regardez, vous qui doutez des OGM.
Vous avez raison. Mais laissez-moi vous expliquer. Sur un chant comme celui-là, un chant où vous avez peut-être connu vos premiers émois amoureux, un chant qui appartient peut-être à un être cher, un chant où vous avez peut-être vu gambader un fond ou une biche heureuse, eh bien ce chant, grâce aux OGM, peut nourrir 50 000 petits Africains orphelins qui pleurent seuls dans la nuit. Vous ne laisserez pas des enfants mourir le ventre vide, n'est-ce pas? Regardez le flambé des prix, du blé et du riz, qui provoque des émeutes de la faim partout dans le monde. Avec des OGM, terminez les émeutes de la faim. Terminez aussi le réchauffement de la planète, rien qu'en achetant des OGM. On pourrait stopper les guerres et faire pousser des fleurs, faire tomber la pluie dans les régions où les gens en manquent cruellement, ou bien au contraire, faire apparaître le soleil là où il est trop rarement présent. Les OGM, c'est l'essence gratuite à vie. C'est la disparition des impôts, de l'interdiction de boire au volant, de fumer dans les lieux publics. Avec un grain de maïs OGM, on pourrait faire revivre votre petit château mort. Grâce aux OGM, vous deviendrez propriétaire de la maison de vos rêves avec piscine. Les enfants ne seront plus obligés de couper la viande et il y aura des frites. Alors, vous écoutez encore ces militants anti-OGM qui veulent vous voir malade et pauvre, qui ne désirent qu'une chose, la disparition de toute vie sur Terre, et qui, au fond d'eux, sont jaloux du bonheur que les OGM vous promettent.
Donc on en était, cher Normand, dans ce petit cours d'autodéfense intellectuelle. Finalement, il y a une chose à quoi on pense tout au cours de la lecture, c'est à la Boétie.
Ah oui.
On pense à la Boétie.
Ils ne
on
sont
pense...
grands parce que nous sommes à genoux.
Ils sont grands parce que nous sommes à genoux. Voilà, c'est-à-dire que cet asservissement à la propagande et cet asservissement aux manipulations de toutes sortes, et tu donnes ces sortes de manipulations, l'une des raisons pourquoi ça fonctionne, c'est que nous sommes enclins à la servitude.
Les formes de domination varient selon le type de société dans laquelle on se trouve. Et le type de domination qui existe dans nos sociétés est absolument différent du type de domination qu'on peut retrouver dans une société totalitaire ou dans une société antidémocratique. Dans une société comme la nôtre, le consentement des gouvernés est extrêmement important. Et c'est pourquoi la phrase de la Boétie est pertinente. C'est-à-dire qu'il est important que les gens aient intériorisé des mécanismes, des visions du monde, des manières de penser qui sont conformes à ce que les intérêts des élites présupposent. Donc, on accorde dans nos sociétés une immense importance à cette liberté sous domination. C'est comme ça qu'on aurait envie de l'appeler. Alors, les gens peuvent... La liberté, c'est de faire tout ce que permet la longueur de la corde. Tu vois? Mais il est important que la longueur de la corde soit bien fixée, tu comprends? Pour que les balises soient précises. Alors, ce qui fait que nos institutions dominantes, dans lesquelles nous vivons, dans nos démocraties libérales, nos institutions dominantes apportent un très, très grand soin à contrôler le discours, à contrôler le débat, à contrôler les termes dans lesquels les discours se tiennent, les solutions possibles envisageables. Et cette façon de cadrer le discours, ben, Chomsky, comme tu sais, a fait un très important travail dans cette direction-là. Et il a sorti, et puis j'en rappelle quelques-uns aussi, moi, dans le petit cours d'autodéfense intellectuelle, il a montré comment ce travail-là est une composante extrêmement lourde de l'histoire de nos sociétés. Alors, comment dans nos sociétés, on a de très longue date des institutions qui sont spécifiquement vouées à ce travail sur l'opinion, à cette cristallisation de l'opinion publique, pour prendre l'expression de Edward Bernays, dont je parle dans le livre et d'autres, tu vois.
Mais justement, alors, j'aimerais bien que tu parles un petit peu de Bernays.
Oui,
montre-nous comment Bernays nous a bernés.
C'est très joli. On a été bernés par Bernays. Edward L. Bernays était né en 1891, par là, tu vois, et il est mort en 1995. Alors, il a vécu 103, 104 ans, ce monsieur-là. Et il est un des principaux créateurs de l'industrie des relations publiques. Alors, cet homme-là va être porté par la commission Creel. C'est à ça qu'il faut faire référence d'abord. Lorsque la Première Guerre mondiale s'enclenche, le gouvernement élu aux États-Unis est un gouvernement qui a été élu sur une base pacifiste, de non-entrée en guerre des États-Unis. La population américaine est globalement opposée à l'entrée en guerre des États-Unis. Après l'élection, les élites, les institutions dominantes changent d'idée. Et ils se trouvent donc devant un problème. On a été élu sur la promesse de non-entrée en guerre. Maintenant, on désire y aller et la population est pacifiste. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, il faut changer le point de vue de la population. Il faut transformer l'opinion publique. Pour le faire, on va créer une commission qui est connue dans l'histoire sous le nom de commission Creel, du nom du journaliste, M. Creel, qui la dirige. Et cette commission Creel va devenir un vrai laboratoire dans lequel vont être créés bon nombre de techniques et de manières de faire utilisées encore dans nos sociétés et d'institutions qui vont y naître. Alors, des gens comme Lippmann ou Bernays sont issus de cette mouvance-là. Et Edward Bernays, donc, va sortir de là et à partir des années 20, va mettre sur pied l'idée de firme de relations publiques. Voilà.
Est-ce qu'il y a des femmes qui fument parmi vous? Oui, les femmes. Oui,
c'est,
oui.
C'est,
oui.
C'est rendu très mal vu au Québec.
Tu fumes? Non, voilà. Il y en a au moins une.
Il y a une raison pour laquelle il fait, parce que Bernays est un de ceux qui va...
On va te dire pourquoi tu fumes. Pourquoi?
Edward Bernays va mettre les pratiques et les techniques qu'il a inventées, il va les mettre au service de ceux qui sont disposés à payer pour ces bons services, tu vois. Et à un moment donné, la compagnie Lucky Strike va venir le voir, tu vois. Vous connaissez encore cette marque-là, il y a encore des cigarettes, Lucky Strike. Et on va demander à Bernays de corriger le problème suivant. Voici le problème. Avant la Première Guerre mondiale, les hommes avaient plutôt tendance à mâcher du tabac, tu vois, à mâcher du tabac. Pendant la Première Guerre mondiale, les compagnies de tabac américaines vont envoyer aux soldats des paquets dans lesquels il y a des cigarettes. Ce qui fait qu'après la guerre, dans les années 20, les hommes fument. C'est devenu acquis. Par contre, les femmes ne fument toujours pas. Et c'est socialement mal vu pour les femmes de fumer, surtout en public, tu vois, surtout en public. Alors, Bernays, on lui soumet le problème. On lui demande de corriger ce problème-là, parce qu'évidemment, il y a la moitié du marché à les conquérir, tu vois. C'est vrai. Et savez-vous ce qu'il va faire? Et voilà un exemple de travail qu'il faut connaître, d'événements qu'il faut connaître. Il était le double neveu de Sigmund Freud, Edward Bernays. Neveu par... oui, c'est vrai, il était doublement le neveu de Sigmund Freud. Par son père et par sa mère. Donc, il était doublement neveu de Sigmund Freud. Et son travail peut se comprendre en référence à Freud. C'est-à-dire que l'opinion publique, elle est là, ils ont des pulsions, des passions, ça résonne pas trop. Et il faut travailler ça, cristalliser ça, puis faire adhérer aux choses qu'on a décidé que le public devait croire. Vous suivez? Alors, par exemple, pour la cigarette, Bernays va se rendre compte que beaucoup de gens sont... accueille avec sympathie la cause des femmes, des suffragettes, de la liberté des femmes. Et il va jouer là-dessus pour amener les femmes à fumer. Et là, en 1929, lors de la fameuse Easter Parade à New York, il va couler des informations dans divers journaux et un peu partout, disant qu'un groupe de femmes, certaines d'entre elles étant connues, les actrices, etc., vont poser un geste d'éclat pendant la parade de Easter à New York, tu vois. Quel est ce geste d'éclat-là? Bien, évidemment, il a tout coordonné, hein, il a tout planifié, il a payé ces gens-là, et marchant à New York pendant la parade de Pâques, certaines femmes, et là les journalistes les attendent, le lendemain ça va être dans tous les journaux en première page, sortent des cigarettes et les allument et les appellent des flambeaux de la liberté. Torches of freedom. C'est assez fort, hein? Torches of freedom. Alors, donc, Bernays va...
Ça fait drôle, hein? Petit malaise.
Voilà, donc... Et Bernays, donc, l'industrie des relations publiques, c'est quelque chose d'important à connaître, c'est pour prendre le pouls de l'information, de sa circulation dans des sociétés comme la nôtre, tu vois. Aux États-Unis, les derniers chiffres que j'ai vus citaient que 125 000 personnes travaillaient dans l'industrie des relations publiques aux États-Unis. C'était plus que le nombre de journalistes au pays.
Places all join hands, circle left. Now circle right and listen to me, LS, LS, MFT. Alamand your corners like swinging on a gate. To right to you, honey, with a right to left eight. Grand right and left around you go. Lucky strike means fine tobacco. Meet your honey and give her a whirl. All swing around with the little girls. Smoke 'em, then you'll see. LS, LS, MFT. Promenade and don't you fall, promenade around the hall. Lucky strike is first again with tobacco men. Promenade straight down the pike, it's time right now for a lucky strike. Yes, for smoking that you're bound to like, you just can't beat a lucky strike.
Lucky Strike means fine tobacco. C'est une pub pour Lucky Strike, pour les cigarettes Lucky Strike. Prends ta chérie par la main et fais la tournée. Lucky Strike pour les hommes les plus forts. Comment on nous a fait fumer? Comment on a fait fumer les femmes? Il faudrait aussi sans doute parler à la libération en France. Comment justement cette marque de cigarette là a été offerte généreusement à la population française? On voit toutes ces manipulations. toujours avec Normand Baillargeon pour son petit cours d'autodéfense intellectuelle. Et il y a aussi, parmi les manipulations dont nous pouvons être l'objet, nous-mêmes, à commencer par nous-mêmes, qui nous manipulons, qui nous auto-manipulons. Et pour entrer dans ce chapitre-là, il y a une petite phrase de Nietzsche qui dit ceci. « J'ai fait cela, dit ma mémoire, c'est impossible, dit ma conscience, et c'est ma mémoire qui cède. » Parmi les, la façon dont cette désinformation nous gagne et nous domine, il y a aussi par nous-mêmes, hein, on a évoqué la Boétie, mais il y a aussi notre propre appréciation, notre propre façon de nous référer à nous-mêmes pour comprendre le monde autour de nous, qui peut être tout à fait faussé. C'est-à-dire que si on ne se fie qu'à notre propre perception, on peut tout à fait s'auto-désinformer, si on peut dire.
Oui, c'est vrai. Il faut se méfier de soi-même. Puis comme je le dis dans le petit cours aussi, s'il y en a qui l'ont lu, il faut se méfier des auteurs de petits cours d'autodéfense intellectuelle. Ça, je tenais à dire.
Oui.
Non, mais effectivement, le recours à l'expérience personnelle est quelque chose qui... Vous savez, on tend facilement à valider par l'expérience personnelle nos croyances. Comprends? Et on ne prend pas suffisamment le temps de se rendre compte que notre expérience personnelle peut être trompeuse. Et là, c'est une leçon importante de psychologie que de savoir ça, tu comprends? On peut très facilement se tromper. Je vais raconter un truc, peut-être que vous ne le croirez pas, mais chez vous, sur Internet, vous pouvez aller le voir. Un professeur de psychologie récemment a fait une vidéo. On mettra en ligne, si vous voulez, l'adresse du vidéo. Vous pouvez aller le voir. Vous arrivez là et vous dites à votre ami, tiens, à toi par exemple, mon cher Christian, tu vas regarder ce vidéo-là qui dure 45 secondes à peu près. Et dans le vidéo, tu vas voir deux équipes de joueurs. Des équipes qui sont vêtues d'un T-shirt blanc, des équipes vêtues d'un T-shirt noir. Chacune des équipes a des ballons de basketball et ils se font des passes. OK? Ils se font des passes par le sol ou ils se font des passes de main à main. Je veux que tu comptes le nombre de passes que se feront de main à main ou par le sol les membres de l'équipe des Blancs et les membres de l'équipe des Noirs. Ça va? Toi ou un ami va regarder ce vidéo-là, tata. Puis là, très vite, tu vas dire, ah, je suis mélangé, j'arrive plus, je perds le compte, c'est compliqué, gna gna gna. À la fin du vidéo, qui dure moins d'une minute, tu demandes à ton ami, que faisait le gorille? Et ton ami dit, il n'y a pas de gorille. Et tu dis, attends, on va le refaire. Et on remet le vidéo. Et là, tu vois les gens se faire des passes. Et à un moment donné, tu vois arriver en scène devant la caméra un homme très grand, vêtu d'un costume de gorille noir. Et il se met en plein milieu et il se tape sur la poitrine. Et il te fait des babayes et il s'en va. Et personne ne le voit. Personne ne le voit. Et vous savez pourquoi personne ne le voit? Personne ne le voit parce que la tâche à laquelle on est attelé est tellement complexe. Et on est tellement mobilisé dessus qu'on construit notre perception. Alors, notre perception, elle est construite et on tend très, très souvent à l'oublier, ça. Alors, dans le petit cours, il y a plusieurs exemples comme ceux-là pour montrer que notre perception directe, notre mémoire aussi, l'appel à notre mémoire, peut être profondément trompeur. Et vous avez raison de dire que notre expérience personnelle peut être trompeuse dans ce sens-là. Mais il y a un deuxième sens aussi, Daniel, où on pourrait dire que l'expérience peut être trompeuse, c'est que si on se fie uniquement à ce qu'on vit autour de nous pour juger de l'ensemble de notre société, on a une vision souvent extrêmement limitée, tu comprends? D'où l'expérience, l'importance d'avoir des relations avec d'autres, de discuter avec d'autres. Et moi, je pense profondément que une des raisons pour lesquelles le militantisme n'a pas tout le succès qu'on souhaiterait, c'est que notre société a réussi à nous isoler, à faire en sorte qu'on est chacun de notre côté. On regarde la télé tout seul, chez soi, le soir, soit, et il nous arrive de penser que, oui, peut-être que ça n'a pas tout à fait de sens, ce qu'on nous dit là, mais étant seul, on n'arrive pas à discuter, à échanger avec d'autres. On est limité à notre propre expérience, tu comprends? Alors donc, non seulement sur le plan de l'expérience personnelle, mais aussi sur le plan de la vie politique. La sphère du politique suppose qu'on fasse ce qu'on est en train de faire ici. C'est-à-dire qu'on soit ensemble en train de discuter et qu'on puisse échanger avec d'autres, recevoir le point de vue des autres. Et une des forces de notre système de propagande, je pense, c'est de nous avoir isolés à un point où c'est devenu très rare que d'avoir ce type de rapport-là.
On a parlé tout à l'heure ensemble de l'expérience de Milgram que vous connaissez peut-être, mais vous la retrouverez dans le livre. Il y a une autre expérience dont tu parles, c'est l'expérience de H.
Oui.
C'est le phénomène du conformisme. Comment nous nous conformons à ce que font les autres et à ce que disent les autres. On ne sait pas trop quoi penser. Et alors, on dit, si tout le monde pense ça, ça doit être comme ça qu'il faut penser, donc je vais penser comme ça. Si c'est comme ça que tout le monde agit, je vais agir de cette façon. Est-ce que tu peux rappeler l'expérience
oui,
de H?
L'expérience de H, avec l'expérience de Milgram, c'est une des grandes expériences de psychologie sociale. Alors, H s'est demandé quel était l'effet de notre propension à vouloir nous conformer à ceux qui sont autour de nous. Et il a, en gros, organisé l'expérience suivante, c'est que, évidemment, c'était arrangé avec lui, mais quelqu'un se présente pour participer à une expérience de psychologie de la perception. On projette sur un écran mettons, trois lignes, tu vois, et on demande laquelle est la plus courte, tu vois. Alors là, tu es dans la salle, puis il y a plein de gens autour de la table qui sont avec toi. Tu es le sujet d'expérience. Les autres sont des comédiens qui ont été embauchés pour participer, tu vois. Et là, tu dis, bon, il y a la ligne A, B, C, on me demande laquelle est la plus courte. C'est à l'évidence C, tu comprends? Et là, les gens commencent à parler autour de la table et ils disent B. Et là, la question est de savoir, quand ça arrive à toi, qu'est-ce que tu vas répondre? Quelle influence ceci va avoir sur ce que la personne va dire, tu vois? Et ce que là, je vais trouver, c'est qu'il y a une très forte propension au conformisme qui va faire que là, on va nier ce qu'on avait conclu d'abord pour se conformer au jugement des autres. Sans doute que ça joue un rôle aussi dans l'explication de certaines de nos croyances, certains de nos comportements. Alors, de la même manière que l'expérience de Milgram est une leçon qui nous invite à nous méfier de l'autorité, on peut très facilement faire des choses horribles parce qu'on a trop de respect pour l'autorité, puis on cesse de penser devant une autorité qui nous apparaît crédible. De la même manière, ben, des fois, on a tendance à être tellement conformiste qu'on renonce de penser aussi par conformisme.
C'est ça. Alors, parmi les moyens les plus certains, je dirais, de nous réduire et de nous désinformer, il y a évidemment les médias, ça, on en a parlé. Il y a aussi la science, il y a aussi le prestige scientifique. On a tous en tête ces publicités pour des dentifrices où on voit le scientifique qui arrive avec sa blouse blanche et qui nous dit voilà ce que vous devez prendre parce que dedans il y a tel ou tel tel ingrédient sur lequel dont on n'a jamais entendu parler. Il y a des rayures vertes qui sont bonnes, des rayures rouges qui sont encore meilleures, etc. Mais il y a ce type, il y a le scientifique avec sa blouse blanche. Oui, l'effet d'autorité.
Tout à fait. Il est mesuré puis il est connu, hein, cet effet d'autorité-là. Puis tout le monde a l'expérience de ça. Il n'y a presque pas un produit. Vous avez cité la brosse à dents, mais les shampoings et tout le reste, ça nous est toujours vendu par des gens en blouse blanche. Parce qu'effectivement, il y a un halo d'autorité qui est transféré avec ça. Et c'est évidemment pour essayer de jouir ou de tirer vers soi le prestige de la science. Ça, c'est un danger énorme. Puis l'autre danger, je pense, en plus de celui-là, c'est le danger des pseudo-sciences. Alors, il y a aussi massivement présentes dans nos sociétés, des croyances profondément irrationnelles. On peut se demander pourquoi les gens y adhèrent tellement. Et je pense que là, il y a une carence de connaissance de la science, hein, parce que la science reste le meilleur moyen de connaissance que l'humanité a développé. Tu comprends? Et avoir une culture scientifique qui permet de repérer ces gens qui viennent simplement blouse blanche, puis ils nous disent 80% des gens préfèrent la pâte dentifrice XY ou Z, tu comprends? Pour se rendre compte que le fait qu'on nous dit que la pâte dentifrice XY ou Z possède le schplung-plung meilleur, ça ne rend pas le schplung-plung réel. Et 80% des gens, encore une fois, ça peut signifier rien du tout. Ça veut dire 8 personnes sur 10 peuvent interroger les 8 personnes qui travaillent dans la compagnie plus 2 autres, tu comprends? Donc, une connaissance de la science, de sa manière de fonctionner, une connaissance minimale de la philosophie des sciences me semble extrêmement utile pour être mise en garde devant ça. Il y en a un peu dans le petit cours, oui.
Ce serait quoi votre source de solution dans ce contexte justement mondial qui... Ce serait quoi les guides ou les barèmes?
Honnêtement, il n'y a pas de garantie là-dessus. Hein? Je pense que si tu cherches...
Donc, vous n'avez pas trouvé la réponse?
C'est-à-dire que j'ai des espoirs, moi, tu sais, sur ce plan-là. Ta question est vaste, tu sais. Honnêtement, c'est pas parce que je viens de parler de lui, hein, mais pour moi, dans ma vie, dans mes convictions, c'est la réponse que donnait Frédéric Douglas. Agitate, tu comprends? C'est-à-dire que devant le monde dans lequel on vit, devant l'état du monde dans lequel on vit, devant ce qui se passe, on n'a pas le choix que d'agir, tu sais, pour essayer de changer les choses. Puis le bonheur, puis l'identité, c'est à trouver dans ces combats-là, puis dans le partage, puis dans la discussion avec d'autres, tu comprends? Faut pas rester chez soi. C'est ça que le système veut, en fait, c'est qu'on reste chez soi. Donc, il faut... travailler à construire notre identité à travers des luttes, des combats, des actions, des choses qui nous plaisent. Hein? Faut faire des choses qu'on aime faire. Moi, honnêtement, j'ai des espoirs. Ils sont connus. Enfin, les gens qui me lisent savent que j'aspire à une société libertaire. Moi, je pense que les grands idéaux qui ont été portés par les principaux anarchistes classiques, Kropotkin, par exemple, c'est d'un ensemble d'institutions décentralisées, autonomes, où les gens contrôlent leur vie, contrôlent l'économie. C'est des choses auxquelles je crois. Puis je crois, moi, personnellement, mais c'est un espoir, tu vois, c'est mon espoir à moi. Je crois que ça, c'est particulièrement adapté à une société technologique évoluée comme la nôtre. Je crois à ça. Je crois, moi, pour te donner... je sais pas si tu connais ces travaux-là que j'ai fait paraître, mais moi, je suis très intéressé par l'économie participatiste de Michael Albert, tu comprends? Je suis très intéressé par des modèles politiques d'inspiration libertaire, d'autogestion, tu vois? J'ai cet espoir-là, tu comprends? Maintenant, pousse-moi pas trop loin pour les défendre à la virgule près, tu comprends? Ça reste un espoir, tu vois? Donc, le petit cours d'autodéfense intellectuelle n'est pas un livre libertaire, c'est certain. Mais beaucoup de libertaires classiques ou de libertaires d'aujourd'hui adhéraient aussi à des valeurs ou des positions comme celle-là.
voilà des extraits d'un entretien avec Normand Baillargeon en avril 2007. Le livre a eu pas mal de succès. Vous pouvez même un très bon succès. Vous pouvez le trouver facilement. Les résultats des expériences de Stanley Milgram ont été publiés en 1990 chez Kalman Levy sous le titre « Soumission à l'autorité ». Je le disais hier, vous savez que cette expérience a été maintes fois reproduite, mais ceux qui l'ont reproduite ont conseillé de cesser de le faire à cause du choc ressenti, éprouvé, douloureusement éprouvé par ceux qui y ont participé. Les preuves de cette expérience ayant été faites et très claires, ils ont jugé à l'époque qu'il était inutile d'aller plus loin. Et puis autre chose de tout à fait différent, un conseil de là-bas dans le cadre les copinages de là-bas, si j'y suis, mercredi prochain le 24 mars, François Ruffin, le nôtre, sera l'invité du repère de Marseille, du repère des amis de là-bas, si j'y suis, de Marseille, pour une conférence débat sur le thème « Médias, la guerre des classes ». Donc le 24 mars à 19h30 à l'Équitable Café, 54 cours Julien à Marseille. Merci à tous les amis de là-bas si j'y suis et qui nous suivent dans les repères. Je rappelle que les repères sont ouverts à tous et non pas, sont pas des clubs fermés. Et puis à nouveau, je vous demande de nous adresser, amis des repères de la Bastille, j'y suis, un mail, des mails pour qu'on puisse vous joindre. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission de la Bastille, j'y suis. Julien Chabassuy, Henri Bérec ont réalisé cette émission, étaient à la technique aujourd'hui. Coyen Buen et Raphaël Moutère ont réalisé cette émission, assistés d'Agnès Le Bot. Et Céline Rouzet attend vos messages sur le répondeur de la Bastille, j'y suis au 01 56 40 37 37. Il nous reste un peu de temps et ce peu de temps, nous allons le passer avec Annie Di Franco.
I walk in stride with people, much taller than me, and partly it's a boot, but mostly it's my chi, and I'm becoming transfixed with nature and my part in it, which I believe just signifies I'm finally waking up. And have moth outside my kitchen door, she's bonkers for that. She is trying to evolve. She's trying to evolve. She's trying to evolve. She's trying to evolve. Now let's get talking brief on madness, like some arrogant government can't buy. New stretch of the imagination, outlaw of plenty. Yes, their supposed authority over nature is a dream. Come on, people, we've got to come claim. Cause they are locking our sons and our daughters in cages. They are taking by the thousands our lives from under us. It's a crash, crash course in religious fundamentals. Now let's all go to war, get some bang for our buck. And I am trying to evolve. I'm trying to evolve. I'm trying to evolve. I'm trying to evolve. Hey.
and I am trying to
De nombreuses personnes sont touchées par le cancer, par la maladie d'Alzheimer, par de graves problèmes cardiaques. Comment faire pour combattre toutes ces maladies? Moi, j'ai choisi de donner à la Fondation pour la recherche médicale. Elle s'investit dans tous les domaines de la recherche. Elle sait où sont les besoins.
Depuis plus de 60 ans, la Fondation pour la recherche médicale agit pour le développement d'une recherche de pointe au service de tous les malades. Parce que toutes les maladies doivent bénéficier de la recherche, faites un don à la Fondation pour la recherche médicale sur frm.org.
Dis donc, c'est très chaud un bon tango.
Ah oui, et tu danses, toi?
Ça m'arrive.
En tout cas, mon manche-disque, lui, il a fondu tellement c'est horrible un tango.
Heureusement que tu as la Matmut qui assure les manches-disques.
Ça, c'est sûr, la Matmut, elle assure.
Tu danses?
Si on se faisait plutôt une fondue.
Ceci est un message de Bleu Ciel d'EDF.
Dis, on en est où, là?
Ah bah, on en est où? Je sais pas où on en est, tu le sais, toi?
Non mais quand même, ça serait bien de savoir.
Je suis d'accord, alors, on en est où?
Mais si je te demande, c'est parce que je sais pas.
Oui bah, moi non plus, je sais pas, ce sera la surprise.
Mais j'aime pas les surprises.
Pour éviter les mauvaises surprises, choisissez Suivi Conso de Bleu Ciel d'EDF pour bénéficier de conseils pratiques et gérer au mieux votre budget électricité. Contactez votre conseiller EDF Bleu Ciel ou rendez-vous sur edf.fr. Offre soumise à condition. EDF, changez l'énergie ensemble. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Il est 16h sur Inter, on se retrouve demain à 15h pour la base si j'y suis, les infos, Angélique Bouin, salut.
L'entrée de Simone Veil à l'Académie française, cette figure de la vie politique prononce en ce moment un long discours devant les académiciens. Trois présidents de la République, Nicolas Sarkozy, Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac, ainsi que du public. Elle a évoqué notamment la mémoire de son père disparu dans l'enfer de Bergen-Belsen quelques jours avant la libération des camps de concentration. Il révérait la langue française, a-t-elle raconté avec émotion, plus encore que je ne le suis. Il serait ébloui que sa fille vienne occuper ici le fauteuil de Racine, a assuré la nouvelle académicienne. Elle occupera le 13e fauteuil, laissé vacant par l'ancien Premier ministre Pierre Messmer, à qui elle rend un hommage appuyé en ce moment. Fauteuil qui fut aussi celui donc de Racine. 16 ans de réclusion criminelle à perpétuité, c'est ce que réclame le parquet général de la cour d'assises de la Manche contre Céline Lesage, cette mère de famille qui a reconnu avoir tué à la naissance 6 de ses enfants. À l'annoncé des réquisitions, l'accusée, visage pâle, est restée quasi impassible. Elle encourt la perpétuité. Dans l'affaire des fillettes françaises nées de mères porteuses aux États-Unis, c'est un arrêt en demi-teinte qu'a rendu la Cour d'appel de Paris. Les juges confirment la filiation de ces enfants avec leurs parents français, mais rejettent la transcription à l'état civil de leur acte de naissance. Cela ne correspond pas complètement aux espérances des parents Menson, mais ils affirment avoir connu pire comme décision. Ils vont se pourvoir en cassation. Après la mort d'un policier dans la fusillade avant-hier soir avec un commando présumé de l'ETA, Nicolas Sarkozy annonce un durcissement de la législation. Le chef de l'État souhaite que la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une mesure de sûreté incompressible de 30 ans soit systématiquement appliquée aux meurtriers de membres de forces de l'ordre. Actuellement, ce type de crime est assorti d'une période de sûreté de 22 ans. Une nouvelle séquestration dans un hôpital public. La directrice de l'établissement Charles Foy, Jean Rostand d'Ivry-sur-Seine, est retenue dans un bureau depuis 10 heures ce matin, en compagnie d'une vingtaine d'autres personnes, des élus du département et des membres d'associations de familles venus à une réunion. Ils sont retenus par des salariés en colère de l'établissement, opposés à la réforme de la PHP, celle qui concerne les hôpitaux de la région parisienne. Les salariés demandent des garanties à la direction de la PHP en matière de suppression de postes et de moyens. La semaine dernière, deux directrices d'hôpitaux avaient déjà été retenues pour les mêmes raisons pendant 7 heures. Le thon rouge continuera d'être pêché en Atlantique et Méditerranée. La conférence sur le commerce des espèces sauvages menacées a rejeté la proposition de Monaco. Le Japon, principal pays consommateur de sushis, s'y opposait avec force et il a été largement suivi par les pays en voie de développement. La proposition a en effet été rejetée par 68 voix contre 20. Quentin Dickinson, lauréat du prix Richelieu 2010, avec un autre de nos confrères, frère, Jean Quatremer. Quentin Dickinson est le correspondant à Bruxelles de Radio France. Ce prix récompense la défense de la langue française, mais aussi l'art de Quentin Dickinson de rendre les questions européennes complexes, simples et attrayantes.
Samedi sur France Inter.
Pardon ?
Ouais, bon, rien, salut, hein ?
Journée internationale de la francophonie.
Chut, c'est France !
En collaboration avec les radios francophones publiques et en partenariat avec l'Institut national de l'audiovisuel. Tout au long de la journée, la langue française sera à l'honneur dans les émissions de France Inter.
Parler français, c'est un geste qui demande la résistance chaque jour.
Des archives, des extraits de films, des lectures provenant de tous les pays et de toutes les régions de la francophonie. Ainsi qu'une programmation musicale 100% francophone.
Tu connais bien la chanson, Marie Gaffron.
Journée internationale de la francophonie.
Qu'est-ce qu'on est, puis comment est-ce qu'on parle?
À suivre ce samedi, de minuit à minuit, dans les émissions de France Inter.
Après, de l'autre côté, France Inter présente Soul Kitchen, une comédie de Fatih Akin, prix du jury au Festival de Venise. Actuellement au cinéma. Un resto branché, le Soul Kitchen. Un frère libéré de prison. Un chef cuistot imprévisible. Un promoteur véreux. Bienvenue chez Zinos, jeune restaurateur à la générosité sans limite. Retrouvez Fatih Akin le 19 mars à 17h dans On aura tout vu.
France Inter. La différence.
16h04, on retrouve Frédéric Lodéon. Bonjour.
Bonjour Angélique. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. À 16h30, je recevrai le très grand pianiste français Éric Lesage qui poursuit son intégrale Robert Schumann, l'œuvre pour piano et autres instruments. Il fait une très belle carrière aussi d'ailleurs en France et à l'étranger. Pour l'instant, voici un homme qu'on avait un peu oublié, Joseph Heibler, qui a été considéré comme un grand compositeur par Mozart, qui pourtant n'était pas très indulgent. À la mort de Mozart, d'ailleurs, sa femme Constance avait prié Heibler de terminer le requiem de son défunt mari, mais on va pas dire qu'il s'est dégonflé, mais enfin, il a renoncé devant évidemment la tâche écrasante, et c'est un autre proche, Süssmayr, qui a continué cette œuvre qui reste historique, même si on dit qu'elle n'est pas entièrement de Mozart, mais enfin c'est une pièce de l'histoire du monde et du monde musical. Heibler a des qualités, je l'ai dit, sinon d'ailleurs on ne le passerait pas ici, et je vous propose d'entendre l'Allegro assai de sa première symphonie en do majeur.